Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, hey, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 6 de Dossier bizarre. Alors, on est, déjà rendu à notre sixième saison, Tristan. Comment ça va ce matin?
Ça va très bien, top shape, et toi?
Ben oui, ça va très, très bien. Écoute, on a des températures anormalement élevées, du beau soleil. C'est pratiquement des températures d'été qu'on a, là. Puis le mois d'octobre arrive demain, donc on en profite.
Ben oui, tout à fait. Je vais clairement aller marcher dehors à l'extérieur. Tu parles d'un beau pléonasme. Je vais aller marcher tantôt, on va en profiter, mais je suis tellement geek que ces jours-ci, il commence à faire plus froid. Alors, même s'il fait super beau, je passe beaucoup, beaucoup de temps à gamer, à regarder des séries, des films, à faire des podcasts, du montage. Donc, je passe quand même la plupart de mon temps en studio dans le noir, Jason.
Ben oui. Puis c'est ça. C'est l'automne. Habituellement, l'automne, c'est ça. Hein, c'est une période où on fait moins d'activités extérieures, plus de on cuisine, on joue à des jeux vidéo, oui. On écoute des films. Mais là, ben c'est ça, on a des températures d'été en octobre. Ça commence à être mêlant un peu. Mais bon, on fait ce qu'on a à faire, puis on en profite en même temps.
Ben oui. Puis une petite parenthèse comme ça, là, on nous a demandé souvent, Jason, c'est quand vous allez peut-être essayer d'améliorer votre qualité audio, peut-être avoir des vidéos et tout. Sachez qu'on vient de passer presque une bonne heure, là, à matin, Jason puis moi, à faire des tests avec des programmes, avec d'autres équipements et tout. Puis on avance, on travaille là-dessus, on met du temps. En ce moment, on a trouvé des programmes et tout. Fait qu'on continue notre recherche avec l'aide de... Ben, des techniciens aussi là, qu'on connaît, qui nous donnent des trucs et tout. Mais sachez-le, on travaille là-dessus et on va y arriver un jour. Une genre de qualité épique, là, visuelle et audio impeccable. On va y arriver, Jason, un jour.
Ben oui, il en manquait vraiment pas beaucoup aujourd'hui pour que ça fonctionne, mais on avait un écho qui était là puis qu'on ne sait pas d'où il sortait. Mais une fois que ce petit pépin-là va être réglé, puis bon, des gens qui travaillent avec toi probablement vont avoir une solution là, à t'offrir cette semaine. On aura peut-être là, la capacité de faire de quoi là, avec une qualité sonore un peu plus supérieure. Pour cet épisode-là, ben on va y aller avec les moyens qu'on a actuellement. Mais okay. ça c'est quand même là, la qualité est quand même pas exécrable. Là. On est capable de bien se comprendre.
Yeah!
Et voilà. Alors, c'est toi qui nous présente un sujet aujourd'hui, Tristan. Un sujet qu'on a effleuré une couple de fois dans nos différents épisodes, mais on s'est jamais vraiment attardé à ce sujet-là. On le sait, tu es un maniaque d'extraterrestres, ça te fait triper. Ouais. Et on va en parler un peu aujourd'hui, mais d'une manière différente, avec une approche différente et d'un sujet qui est peut-être moins souvent abordé que le sujet des ovnis, des soucoupes volantes, des visites extraterrestres qui arrivent du ciel. On va parler de quoi exactement?
On va parler, attention, roulement de tambour, on va parler des osnis.
Hein? C'est quoi
les
ça?
Les osnis, je ne sais pas si le S est prononcé en Z, ou moi je les appelle les osnis, les objets submersibles non identifiés.
Aha.
Ou on peut aussi les appeler les objets sous-marins non identifiés.
D'accord. Donc,
alors, c'est la même chose qu'un...
Une soucoupe volante, mais dans l'eau.
C'est ça, exactement. OVNI, c'est objet volant non identifié.
Oui.
Et OSNI, ben, c'est ça, comme tu l'as dit, c'est la même chose, mais sous l'eau. On parle bien d'objet, hein? Donc de quelque chose de matériel. Tu sais, quand on parle d'OVNI, on ne parle pas d'alien volant non identifié.
Là. Non,
on
non, non.
On ne parle pas ici l'extraterrestre qui vole dans les airs. On parle toujours d'objets, de soucoupes, de vaisseaux, de lumière, de quelque chose de matériel. Donc, c'est de la matière inanimée. Hein?
Oui.
Donc,
c'est un véhicule.
C'est vraiment... Exactement, un véhicule, mais c'est matériel.
Oui.
Eh bien, c'est la même chose pour les objets submersibles non identifiés. On ne parlera pas donc de monstres, de créatures vivantes. Là, on parle vraiment d'objets sous-marins qu'on n'est pas capable d'identifier.
Mais est-ce que ça arrive, ça? Parce qu'on n'en entend pas souvent parler. Dernièrement, puis on va probablement en parler dans un épisode là, durant la saison 6, mais dernièrement, les États-Unis ont encore une fois rendu public des images, des rapports, des choses comme ça, qui sont un peu ambiguës. C'est pas vraiment des preuves béton, mais en même temps, ça soulève beaucoup de questions. mais ça se passe dans le ciel. Et ça se passe toujours dans le ciel quand il y a des révélations comme ça. De mémoire, je me souviens pas d'une conférence à la Maison-Blanche où ils ont dit « Bon, ben là, on va parler avec les militaires. On veut savoir qu'est-ce que vous avez vu dans les fonds marins qui pourrait peut-être être une espèce qu'on connaît pas, dans un véhicule avec une technologie qu'on maîtrise peut-être pas. » Jamais j'ai entendu parler de ça.
Non, c'est surprenant. Hein? Puis moi, pour renchérir sur ce que tu dis, Jason, c'est vraiment un fait, là, une statistique ici que j'ai devant moi, qui est à tomber par terre. Là. Les ufologues estiment que 50 % des observations d'ovnis proviennent de la mer, des océans et des lacs. Hein? On parle d'objets observés sous l'eau, à la surface ou plongeant dans l'eau. Tu sais, des lumières qu'on voit dans le ciel,
oui.
Mais qui se dirigent dans l'eau,
okay,
et qui ressortent par la suite. Donc, vraiment, la moitié des observations d'ovnis ont été observées là, sous l'eau, à la surface ou plongeant dans l'eau.
Aha.
Alors, c'est vraiment relié. Par contre, quand on écrit OSNI sur Internet, on trouve pratiquement rien.
Ben
il y a
non,
presque
c'est ça.
Rien.
Et je viens de faire l'exercice là, sur Google. Je me suis dit, bon, je vais aller voir des images, peut-être des dessins. Mais il n'y a pas grand résultat qui sort. Si vous faites une recherche avec OVNI, vous allez avoir des millions et des millions et des millions de résultats.
Ben oui.
Et OSNI, avant de tomber dans des résultats qui n'ont plus vraiment rien à voir avec ce qu'on cherche, c'est pas trop long, là.
Non, exactement. Puis c'est surprenant parce que si on dit que 50 % des observations d'OVNI sont reliées à l'eau, donc les gens qui sont en bateau, sur la mer, sur l'océan, qui voient des objets non identifiés à la surface, sous l'eau, ou qui plongent dans l'eau, puis qu'on trouve presque rien sur Internet, c'est quand même spécial. On voit que le buzz est vraiment autour des ovnis. Comme tu le dis, il y a des millions de pages et de sites sur les ovnis, mais presque rien sur les OSNI. Donc, écoutez, on va voir combien de temps que ça va durer, mais j'ai trouvé les faits qui ressortent le plus, qui ressortent le plus sur Internet. C'est quand même plutôt logique, quand même logique.
Est-ce que Tristan, parce qu'on a le triangle des Bermudes, et il y en a d'autres zones comme le triangle des Bermudes un peu partout, ouais, sur la planète. Il y a d'autres zones mystérieuses où on pense qu'il y a plus de disparitions que d'autres. Est-ce que les OSNI et le triangle des Bermudes, c'est un... des fois, on fait des accords mais 20, oui, là. Est-ce que c'est un bon accord, les deux ensemble?
Oui, c'est un bon accord. C'est un bon accord. Okay. Et puis, tu vas voir, on va y revenir, là, parce que Triangle des Bermudes, effectivement, c'est un endroit où on a observé plus d'OSNI, effectivement. Mais on va commencer par prendre la DeLorean. On va remonter dans le temps, Jason. Sais-tu, c'est quand là, que ça a commencé, à peu près, selon toi, les observations d'OSNI dans l'histoire de l'humanité? C'est vers quelle année, selon toi?
Écoute, on a parlé là, des premières observations officielles d'OVNI. Tu l'avais présenté, d'ailleurs, là, le premier vrai témoignage de quelqu'un qui a observé des OVNI, c'était un militaire. C'était dans les années 50, si je me trompe pas, hein?
Ben, ça ressemble pas mal à ça pour les objets sous-marins.
J'ai l'impression que oui, étant donné qu'il y avait cette espèce de climat un peu angoissant avec la guerre froide qui commençait, la Deuxième Guerre mondiale était terminée, puis ça n'a même pas eu le temps de finir que déjà l'URSS puis les États-Unis se regardaient dans les yeux puis n'étaient pas de bonne humeur. Ça a créé une espèce de d'angoisse globale. Ça. Tout le monde sur la planète avait peur qu'il y ait un apocalypse nucléaire là, qui se déclenche, ouais, entre les deux pays. Et ça a fait en sorte que les gens ont commencé à observer plus leur environnement, on dirait. On avait peur qu'il y ait des sous-marins russes qui viennent en Amérique du Nord. Fait que les gens se sont peut-être commencé à porter plus attention à ce qu'ils voyaient dans l'eau. Un peu comme les gens qui voyaient ce qui se passait dans le ciel. Ça faisait, on le dit souvent, ça faisait l'affaire du gouvernement parce que ça faisait plein d'observateurs qui regardaient le ciel si jamais, les Russes envoyaient un avion espion puis que quelqu'un voyait une forme étrange dans le ciel. Il appelait les autorités, on pouvait faire décoller des avions. Et souvent, on dit, l'armée a fait décoller 4 avions pour un OVNI. Là, ça n'a pas d'allure. En fait, on fait décoller 4 avions, c'est pas seulement pour aller voir si c'est vraiment un OVNI, mais c'est pour aller voir ce que c'est. Est-ce que c'est une menace à notre sécurité nationale? Est-ce que c'est une menace à notre pays? Donc, eux, ils vont décoller, peu importe. Là. Si quelqu'un dit, j'ai vu un gros cigare qui ressemblait à une saucisse dégoûtante dans le ciel, ils vont quand même décoller pour aller voir si c'est pas un avion ennemi, un avion d'un pays ennemi. Ils n'ont pas le choix d'aller vérifier. Et ça leur permet, les gens qui observent et qui vont appeler avec des observations comme un OVNI ou un OSNI, ça permet aussi d'aller vérifier là, s'il n'y a pas une faille dans la sécurité du pays, tout simplement.
Absolument. Puis c'est vraiment, là, on va se le dire, à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des développements technologiques incroyables dans tous les domaines, hein, tous les pays du monde entier, avec les scientifiques, il y avait des progrès fulgurants. Et la pente est exponentielle. Là. La parabole est exponentielle quant à la quantité d'engins sur l'eau et dans les airs, des engins humains. Après la Seconde Guerre, comme tu l'as dit, les avions, les sous-marins, les navires, les humains, on était partout. On a commencé à s'espionner. Et surtout, en 1960, Jason, sur les mers, les océans, les radars sont devenus extrêmement performants.
Oui.
Ce qui nous a permis d'avoir là, une explosion d'observation d'OSNI à travers le globe à partir des années 60, là, véritablement.
OK.
Donc, les sous-marins, on parle de sous-marins, là, dans les années 60, il y en avait partout des sous-marins après la Seconde Guerre. On en envoyait là, de plus en plus dans les océans. Et on a détecté des anomalies sous-marines beaucoup, beaucoup au large des côtes des États-Unis, du Canada, du Brésil et des îles britanniques. Donc, c'est vraiment là, autour de ces côtes-là qu'on a découvert plein d'observations. Il y a des observations de SNI qui ont marqué l'histoire, qui sont inscrites dans les archives. Par exemple, une observation qu'on retrace dans les archives de l'armée américaine, de la Navy précisément. En 1963, la Navy américaine a repéré sur son sonar un objet circulaire inconnu se déplaçant à 8000 mètres de profondeur.
Oh.
Alors, c'est à cette époque, on va se le dire, les sous-marins ne pouvaient pas se rendre à cette profondeur. Alors, les gens sur le navire, là, les opérateurs radars de la Navy ont dit que cette découverte est restée gravée dans leur mémoire et ils n'ont jamais pu savoir c'était quoi cet objet circulaire à 8000 mètres de profondeur. Mais il avançait, Jason, il bougeait.
Mais c'est spécial parce que c'est extrêmement profond. Là. On parle de 8 km de profond à une époque où les sous-marins n'étaient pas fabriqués pour résister à une très, très grande pression. Donc, ça ne peut pas être, à moins que ce soit un modèle top secret d'un pays qui faisait des tests là, avec un nouveau sous-marin capable d'aller aussi profond. Mm-hmm. Ça pourrait être ça aussi, mais on ne saura probablement jamais c'est quoi qu'ils ont détecté avec leur radar cette journée-là.
Absolument. Ça reste c'est une histoire qui a été racontée dans la Navy américaine depuis 1963. Les opérateurs radars en parlent encore aujourd'hui dans les archives de l'armée américaine. Ce fameux objet circulaire observé sur le radar, sur le sonar, qui avançait à 8000 mètres de profondeur. Donc ça, là, tu vois, c'est une des observations qui est archivée, là, qu'on peut retrouver dans les archives de l'armée américaine. C'est pas un canular, c'est pas des gens qui ont dit « Ah, ouais, j'ai vu de quoi de bizarre sur le radar, ouais. » Non, non. Tout le monde était d'accord pour dire « Ah, il y a quelque chose, on sait pas c'est quoi, ça avance, c'est à 8000 mètres. » Donc, mystère total.
Ben oui, c'est spécial.
Cette observation.
Mais c'est une observation, comme tu as dit, c'est une observation qui a été faite par des gens de confiance, des gens à qui on peut se fier. Et ça fait en sorte que ces observations-là, du côté des autorités de tous les pays de la Terre, on les garde en archive parce que c'est pas un monsieur un peu bizarre qui s'est pas nommé avec un témoignage anonyme qu'il a vu quelque chose. C'est quelqu'un vraiment qui était dans un sous-marin avec un sonar. On a réussi à détecter cette forme à 8000 mètres et c'était des gens de confiance. Là. Donc, on n'a pas pris ça à la légère quand eux ont dit « Écoutez, on a observé quelque chose sur nos équipements qui était à 8000 mètres d'altitude, de profondeur. » Parce que, ces gens-là testaient l'équipement ou c'est des gens de confiance. Y en a-tu beaucoup des témoignages comme ça? Parce que comme on n'a pas beaucoup d'informations sur Internet, c'est dur à trouver.
C'est drôle parce que ce qui est surprenant, c'est ça, c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent. Et puis, pour vrai, pour les OSNI, Jason, on pourrait, tu sais, un peu comme, mettons, l'OVNI de la station Bonaventure, là, qui était notre premier épisode, je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui, absolument.
Celui-là, il est connu, tout le monde le connaît, les ufologues le connaissent très bien. Mais pour les OSNI, il y en a comme 4-5 des histoires qu'on retrouve, qui sont répertoriées sur le web et qui reviennent sur les forums. Donc moi, je vous les vulgarise en s'amusant aujourd'hui, en bref. Mais tu vois, le deuxième, c'est au Québec. C'est chez nous.
Ah oui?
Sur le fleuve Saint-Laurent.
Oh!
Alors, on s'en va en 1965. C'est un cas très célèbre de SNI là, qui est répertorié par les ufologues. Alors, ça se passe près de la ville de Québec, Jason. Il y a un pilote d'un avion de Québec Air à l'époque.
Ben oui.
Il circule au-dessus du fleuve et avec son copilote, les deux, pendant 5 minutes, observent un objet flottant, un peu sous la surface, à environ là, 350 km là, de la mer du Golfe, donc vers la région de Québec, entre Québec et Rivière-du-Loup environ. Et l'objet, là, il flotte sous l'eau. Ça ressemble, ils disent, à un sous-marin, mais d'une forme inconnue. Ils n'ont jamais vu ça, cette forme de sous-marin-là.
OK.
Alors, ils disent, là, pendant 5 minutes, ils l'ont vu avancer. Et c'était donc un sous-marin de forme inconnue qui flottait sous la surface. Et pendant 5 minutes, ils l'ont observé. Mais là, l'affaire, c'est que dans ce secteur-là du fleuve, Jason, c'est un secteur qui est un des plus dangereux pour les navires. Imaginez, ouais. Il y a des hauts fonds, il y a des îles, il y a des virages étroits. C'est déjà difficile pour les navires, alors on n'imagine pas pour des sous-marins. On le sait que c'est un secteur où c'est pas... les sous-marins, pendant la Seconde Guerre, il y en avait qui allaient à l'entrée du fleuve là, parfois, mais pas plus loin. Là. C'est beaucoup trop dangereux pour un sous-marin d'aller dans ce secteur. Même qu'au Québec, on le sait, à partir de Québec, on passe les manœuvres du capitaine à des capitaines expérimentés.
Ben oui, on laisse les commandes. On laisse les commandes à des gens qui sont formés pour naviguer dans le Saint-Laurent parce qu'il y a des endroits où c'est extrêmement dangereux. Dans notre secteur ici, il y a Anticosti. Tout autour d'Anticosti, c'est extrêmement difficile à naviguer. Il y a beaucoup de au fond, comme tu disais, il y a beaucoup de risques d'accrocher également là, des choses qui sont sous l'eau. Et il y a eu beaucoup de naufrages autour de l'île d'Anticosti à cause de ça. Donc oui, comme tu dis, c'est quelque chose qui est particulier et que les gens ne savent pas, mais souvent, on va passer les commandes à quelqu'un d'autre à certains endroits pour justement être certain qu'on a quelqu'un qui est formé pour naviguer dans ces secteurs.
Absolument. Donc là, il y a toutes sortes de théories. Là, on est durant la guerre froide. On pense que c'est peut-être un sous-marin, peut-être russe, qui veut venir nous espionner pour éventuellement trouver un bon spot pour balancer une bombe nucléaire. Là, les autorités prennent panique, Jason.
Ben alors, oui.
Les policiers, tout le monde, les autorités se mettent à la recherche, essaient de trouver des indices de ce qu'a vu l'avion de Québec Air. Mais on ne trouve rien. Rien du tout. Les policiers ne sont pas capables de détecter d'autres preuves. Il n'y a pas d'autres témoignages. Alors, les hypothèses sont nombreuses. On dit peut-être que le sous-marin s'est échoué, enfoncé dans un haut fond, une roche, un récif, et a coulé au fond du fleuve. Donc, il y a peut-être une épave de sous-marin en ce moment dans le secteur entre Québec et Rivière-du-Loup. Puis on dit sous-marin, mais je rappelle que le pilote et le copilote disaient que ça avait une forme inconnue.
Ben oui.
Donc, ils n'ont pas dit « Hey, regarde un sous-marin ». Ils étaient genre « Hey, que c'est ça ?»
Ben oui.
Pendant 5 minutes, ils l'ont observé avancer là, sous la surface du fleuve.
Il y a une machine en dessous de l'eau, mais on n'est pas sûr de ce que c'est.
Exactement. Donc, les autorités, les policiers n'ont jamais pu trouver c'était quoi. Alors, une observation de SNI là, qui est encore très connue et que les gens en parlent encore aujourd'hui.
C'est en quelle année? As-tu l'année de cette observation-là?
Oui, 1965.
1965, OK, ça fait quand même un bon bout. Là.
Ouais. Et petite anecdote, Jason, par rapport à ça. Moi, j'ai grandi sur le bord du fleuve à Varennes.
Oui.
Et puis, je vous en raconte une petite. C'était, j'ai vécu un peu ça, moi, à un moment donné. Écoute, on en voit de toutes sortes sur le fleuve Saint-Laurent. Hein, c'est la voie principale, une voie de commerce incroyable pour... C'est tout ce qui vient de l'Atlantique pour aller donner les marchandises à l'Amérique. C'est incroyable comment il y a du stock qui passe là. Et à un moment donné, j'avais à peu près 7 ans, Jason. J'étais dans la cour, je regardais le fleuve. Et j'ai vu un sous-marin.
Dans le fleuve?
J'ai vu à la surface
okay.
du fleuve, on voyait carrément la coque, le dessus d'un sous-marin là, qui avançait. Et là, j'ai couru genre vers la maison en criant « Un sous-marin! » Là, les parents, tout le monde est sorti, mes frères, les parents. Mais il était trop tard, le sous-marin était genre disparu.
Ah!
Mais comme là, je me suis senti, tu sais, comme la fille dans Pirates des Caraïbes 1, quand au début du film, là, elle voit le bateau, là, la perle noire, dans la brume, le bateau disparaît. Là, comme « J'ai vu un bateau de pirate! » Mais là, personne ne la croit parce que personne n'a vu le bateau Sauffel. Ben, je suis pogné avec ça depuis que j'ai ça. Je suis certain d'avoir vu un sous-marin passer dans les années 2000, au début des années 2000, devant chez mes parents. Un petit sous-marin là, noir, petit, assez gros quand même, là, mais j'ai le souvenir ancré dans ma mémoire. Alors, qui sait, peut-être que c'était le même engin que les pilotes ont observé dans le fleuve en 1965. Qui sait? On s'amuse.
Ben oui, c'est spécial. Mais déjà, juste le fait de voir un sous-marin dans le fleuve, c'est déjà exceptionnel. Écoute, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est pas une voie navigable qui est très, très propice à la navigation ou à la circulation des sous-marins. Mais c'est quand même assez spécial. Puis au début des années 2000, ça veut dire ça fait une vingtaine d'années de ça. C'est quand même quelque chose. Ça t'a marqué au point où ce que tu le racontes, on dirait que ça vient d'arriver.
Ah oui, non, j'ai le flash dans ma tête. À chaque fois que j'en parle à mes frères, ils étaient comme ça tout le temps, comme ben voyons donc, même mon père, tout le monde est sceptique, mais tu sais, quand moi je l'ai. C'est un peu comme quand tu vois quelque chose, j'ai pas vu un ovni, j'ai pas vu un monstre, j'ai pas vu un extraterrestre. C'est quand même de quoi qui est minimalement plausible. J'ai vu un sous-marin. Je sais que, en gros, ça se pourrait peut-être, mais tu sais.
C'est pas impossible parce que tu l'as dit, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des sous-marins allemands qui ont réussi à se rendre dans l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Ils n'ont pas été jusqu'à Montréal, là, mais ont été à la hauteur d'Anticosti, justement. Puis ont quand même été capables de se promener un petit peu. Fait que c'est pas impossible qu'un bon pilote réussisse à aller plus loin puis se rendre là, jusqu'à justement là, les grandes villes qui longent le fleuve. C'est pas une impossibilité, ça se peut. Ça reste dans le domaine du plausible.
Absolument. Écoute, j'en ai une autre au Québec. C'est une dernière qui s'est passée au Québec, celle-là. Celle-là est un peu plus. Un peu plus fantastique, fantaisiste, okay. Un peu moins facile à croire, là, même que, bon, on peut s'amuser un peu à la raconter, là, mais bref, c'est trois personnes, un peu plus tard, là, le 23 mai 1969, il y a trois personnes, c'est inscrit dans les archives parce qu'il y a eu une recherche des policiers quand même, là, il y a eu quelques recherches, trois personnes qui ont, ils disent, avoir observé un objet rond, brillant, avec des lumières rouges clignotantes qui plongeait dans le Saint-Laurent. Alors, voilà, trois personnes qui ont vu un objet rond brillant avec des lumières rouges qui clignotaient et qui a plongé dans le fleuve. Trois personnes qui l'ont vu. Alors, ensuite, là, ils ont contacté les autorités. Les autorités ont dit, bon, ben, on n'a pas de preuves, pas de photos, on ne peut rien dire. Mais la police, c'est ça, n'est jamais parvenue à expliquer les phénomènes. Là.
OK.
Mais là,
eux, quand ils disent plonger, est-ce que c'était à la surface et il est tombé en... il est descendu en plongée? Ou c'était quelque chose qui était en vol et qui s'est précipité dans l'eau?
C'était un ovni, donc on parle d'un objet volant identifié qui avait des lumières rouges, qui clignotait, qui ressemblait à une soucoupe. On parle d'un rond brillant. Donc,
OK.
Ça fait penser un peu aussi aux ovnis qui ressemblaient aux ovnis durant la vague belge.
Oui.
À cause des lumières rouges clignotantes et qui a plongé dans le fleuve. Donc l'ovni qui s'en va, se dirige vers le fleuve, qui descend et disparaît dans l'eau. Alors, c'est ce que les trois personnes disent avoir vu. C'est pas une personne, c'est trois paires de yeux quand même. Alors, bon. En même temps.
Donc, eux auraient vu, dans le fond, une soucoupe volante, mais qui se serait précipitée dans l'eau, qui aurait plongé dans l'eau. Donc, un véhicule qui est capable de voler et puis probablement aussi de naviguer sous l'eau.
Exactement. Là, j'en ai une très, très loufoque. OK? Là, on va rire. On va s'amuser, Jason, parce que ça fait même référence à un de nos épisodes
que tu as fait
sur une créature.
Oh!
Comme quelque chose. Le 1er août 1962, à 23h, il y a trois pêcheurs français du port de Brusque, en Méditerranée.
OK.
Ils ont vu un long engin métallique se déplacer à la surface de l'eau. Alors, au début, ils pensèrent que c'était un sous-marin, mais l'eau s'est mise à bouillonner autour de l'engin.
Oh, OK.
Et là, l'eau s'est mise à bouillir là, autour de l'engin. Et soudainement, une douzaine d'hommes grenouilles émergèrent.
Là, on parle des hommes grenouilles, pas des gens avec des habits de plongée, là.
Non, les hommes grenouilles. Tu sais,
les monsieur grenouilles, comme les monsieur grenouilles de Loveland.
Exactement.
Oh!
Et là... Les pêcheurs ont essayé d'interpeller les hommes grenouilles, mais il n'y a personne, il n'y a aucun homme grenouille qui a répondu. Finalement, il y a un homme grenouille qui s'est tourné vers eux et les a salués, leur a envoyé la main. Alors, jusque-là, bon, c'est assez fou. Et on dit que les pêcheurs, là, ils ont finalement vu, c'est juste pour ajouter une cerise sur le sundae, les pêcheurs ont vu l'engin s'élever dans les airs, des lumières ont commencé à clignoter. Et l'étrange sous-marin est accéléré pour devenir un point lumineux dans le ciel.
Eh bien! Fait que là, c'est le contraire. C'est un véhicule qui était dans l'eau, qui est sorti de l'eau, qui a déchargé ses hommes grenouilles puis qui s'est envolé après.
Exactement. Okay. Là, c'est que, encore là, c'est bon. Moi, si on avait dit que c'était une gang de jeunes sur un navire de plaisance qui avait fait des champignons magiques, j'aurais fait bon, tu sais, ou je sais
pas.
Ouais,
non, c'est ça.
C'est probablement trois pêcheurs qui en avaient peut-être pris un bon coup aussi.
Ça.
Mais bon, c'est quand même, écoute, c'est quand même une histoire qu'on retrace là, qui est encore dans les années 60 de Sydney. Là, on arrive dans une observation sérieuse, Jason.
OK.
C'est plus crédible, celle-là. Parce que un peu comme la vague d'OVNI au Mexique ou en Belgique. Ça s'est passé en 1978. On s'en va dans le coin de l'Italie. Il y a 500 rapports qui ont été recueillis au total cette année-là. Le long des côtes de l'Adriatique. Alors, des phénomènes inexpliqués comprenant des colonnes d'eau s'élevant à 30 mètres par mer calme,
des lumières
rouges et blanches suivant les bateaux de pêche. La nuit, on parle des osnis sous la surface de l'eau qui plongeaient et émergeaient en produisant des interférences électriques sur les radars des bateaux.
Oh!
Il y a eu des bugs radio aussi, des bugs de télévision sur les bateaux de pêcheurs. Les pêcheurs, ils n'en pouvaient plus. Il y a eu des rapports. Alors, ils ont même demandé l'aide de la protection de l'armée, la protection des militaires pour sortir en mer, pour aller pêcher, parce qu'en 1978, les pêcheurs s'est rendu qu'ils avaient peur d'aller sur l'eau près de l'Italie là, durant cette année-là. 500 rapports.
500 témoignages, c'est beaucoup, là, un an comme ça, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un même secteur. Là.
Absolument. Je ne sais pas si tu as vu, mais on remarque quand même, ça ressemble beaucoup aux autres histoires quand même.
Oui.
On parle, tu vois, des lumières rouges clignotantes. On parle, tu sais, comme les trois personnes là, qui ont vu les lumières rouges sur le fleuve Saint-Laurent. On parle de longs trucs là, métalliques émergents et plongeants. En produisant des interférences électriques sur les radars. Donc, peut-être...
C'est un nouvel élément qui est important parce que là, si vraiment c'est un véhicule qui a été construit soit par l'homme, soit par l'humain ou bien par une espèce qu'on ne connaît pas, ça reste que si le véhicule est capable de brouiller les équipements des bateaux autour, c'est probablement volontaire. Donc, ça laisse penser que c'est bel et bien un véhicule qui... essaie de rester discret, qui essaie de se cacher, qui essaie de se masquer face aux appareils de détection là, des autres navires. Là, ça commence à être de quoi, là?
Oui, absolument. Puis ça a créé un buzz là, aussi médiatique en Italie en 1978, un peu comme la vague d'OVNI en Belgique ou encore la vague d'OVNI au Mexique, mais c'était très, très local. Donc, en Italie, les gens en parlaient, mais ça n'a pas tant fait le tour du monde. Là. C'est resté local.
OK.
Mais à un tel point que, justement, les pêcheurs avaient peur d'aller en mer pour toutes ces observations bizarres. Moi, ce qui me fait, je trouve, la plus bizarre dans toutes celles-là, on parle de quoi? Les murs d'eau, les colonnes d'eau,
ben
seulement
oui.
à 30 mètres.
Hey, c'est haut 30 mètres, là. C'est très haut 30 mètres, là.
Mais tu sais, on avait dit deux personnes, OK, mais là, 500 rapports dans les archives en Italie, des observations d'objets sous-marins non identifiés, ça fait quand même beaucoup et c'est durant une année seulement. Après ça, on n'y en a plus.
Donc, ça a été, après ça, pouf! Fini. Plus aucun témoignage. Hein?
Donc, on parle de vraiment la vague d'OSNI de 1978.
Ben oui.
Le long des côtes de l'Adriatique.
Eh ben.
Alors, voilà.
Spécial,
j'en ai une dernière avant la pause.
OK.
Parce qu'après ça, tu vois, j'ai deux autres segments à notre podcast d'aujourd'hui. Là. Il y a même Star Wars qui va venir, qui va venir dans l'épisode d'aujourd'hui.
Oh.
Mais juste avant... un dernier, là, on commence à comprendre que les OSNI, avec toutes ces observations, on comprend que c'est des engins, mettons, on va se le dire, on se met dans un monde que c'est plausible, toutes ces histoires, bien, on remarque que ces engins sont beaucoup plus performants que les nôtres.
Oh!
Hein? Ils vont plus vite,
oui.
Ils vont plus profond. Alors, même en Atlantique Nord, en 1963, encore dans les années 60, il y a un porte-avions américain, le WASP, qui est suivi de 12 autres vaisseaux. Les 13 vaisseaux avec le porte-avions ont détecté un engin énorme voyageant sous l'eau à 280 km/h.
Hey boy! En dessous de l'eau à 280 km/h, ça commence à être... c'est rapide, ça là, en dessous de l'eau.
Ouais. Ça défie un peu les lois de la physique, là, pratiquement.
Ouais, oui.
Sous l'eau, 280 km à l'heure, mais les 13 navires ont vu l'objet passer sur leur radar, les 13. On n'en sait pas plus. Là. Est-ce que faudrait être dans les secrets de l'armée américaine pour avoir plus de détails, là, mais les 13 navires ont détecté le même engin sous l'eau passé, en dessous de la flotte de navires passée à 280 km à l'heure.
280 km à l'heure, ouais, non, c'est complètement fou. Hein.
Absolument. Donc voilà, je vous proposerai une courte pause. Après ça, Jason, on va aller dans... je vais vous parler de l'anomalie très connue dans la mer Baltique qui a fait... c'est plus récent, là, on parle de 2011.
OK.
Et c'est vraiment... ça fait plein. Là, on a plusieurs détails. Là, on va pouvoir aller plus profond dans une histoire là,
excellent.
Plus connue qui a fait vraiment le tour du monde. Et voilà, l'anomalie de la mer Baltique, là, au retour.
Excellent. Alors, on fait une petite pause, puis on revient avec ça.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Les lutins élégants.
Aux lutins élégants, on est soucieux de la protection de l'environnement. Alors, pour éviter de produire des déchets supplémentaires dans nos dépotoirs, on réutilise nos vieilles brosses à dents pour nettoyer vos ongles d'orteil.
Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire, là?
Hein, quoi?
À propos des brosses à dents?
Ah, non.
Oui, oui, là, les brosses à dents.
Oh, check! Un écureuil!
Nous sommes de retour et Tristan nous présente son premier sujet de la saison 6. Et c'est tout, tout un sujet, je m'y attendais pas, mais pas pantoute. On parle des OSNI, O-S-N-I, qui est l'équivalent des ovnis, mais des objets qui sont dans l'eau. Donc, des véhicules non identifiés qui circulent sous l'eau.
Absolument, des objets submersibles non identifiés ou objets sous-marins non identifiés. C'est cool à dire en plus, c'est gentil.
Ben
on l'entend pas souvent, mais il est le fun cet acronyme-là.
Les OSNI.
Alors oui, là, on s'est amusé la première demi-heure à faire des... Bon, on a survolé là, en rafale là, les histoires qu'on retrouvait le plus souvent sur Internet sur les observations d'objets sous-marins non identifiés. Mais là, il y en a une qui revient, Jason, qui est plus détaillée.
OK.
Ça fait jaser. Puis les fans de Star Wars vont être contents, là, parce que je vous explique l'histoire.
Vas-y, raconte-nous ça.
C'est l'équipe de Ocean X, une équipe de chasseurs de trésors et d'opérateurs de récupération spécialisés dans la recherche sous-marine de boissons alcoolisées anciennes haute gamme et d'artefacts historiques.
OK, fait qu'eux autres, s'ils trouvent un coffre rempli de pièces d'or, ils vont le laisser là, mais ils vont prendre la vieille bouteille de vin à côté, c'est ça?
Exactement. Okay. On s'entend qu'ils n'ont probablement pas trouvé d'or encore. Non. Ils réussissent à faire leur argent en vendant des artefacts puis toutes sortes de boissons alcoolisées antiques qu'ils retrouvent sur des vieux naufrages, des épaves. C'est des plongeurs. Ils sont sur leur navire. Ils ont leur radar. Alors, des vrais chercheurs de trésors moderne.
OK.
C'est quand même une cool vie, on va se le dire. C'est quand même une cool vie, une cool carrière. Des
fois, ça doit être un travail le fun. Mais en même temps, c'est un travail extrêmement risqué. Là, sur la mer, ben, des fois, la mer est agitée, des fois, elle est complètement déchaînée. Plongée également pour aller dans des épaves. Là, on voit des documentaires, puis c'est beau, puis ça a l'air facile. Mais c'est quand même extrêmement risqué comme métier. Là.
Absolument. Alors oui, ça fait des années qu'ils font ça, Jason. Ils ont leur équipe. On pourrait faire une série sur leur voyage.
Ben oui, ça serait intéressant.
Là, ils se rendent sur les flots en mer. La mer, là, entre la Suède et la Finlande. Alors, la mer Baltique.
OK.
C'est là, entre les pays scandinaves.
Oui, oui, oui.
Et on dit que c'est une des mers les moins profondes, là. C'est même surprenant, mais il y a tellement des hauts fonds un peu partout que souvent, là, c'est à 60 mètres seulement. Il y a juste à 60 mètres. Là, c'est vraiment... Donc, c'est facile pour trouver des objets et des artefacts. Et là, les autres, ils partent en juin 2011 en expédition. Et ils recherchent un vieux naufrage. Ils cherchent, ils passent le radar, ils repassent, ils envoient le scan un peu partout. Là, à un moment donné, il y a une image qui sort, un peu floue, mais très intéressante. Alors, ça montre l'image d'un objet circulaire de 18 mètres de diamètre avec des caractéristiques ressemblant à des rampes, des escaliers et d'autres structures non produites par la nature.
Ben voyons donc.
Alors le groupe capote, son genre, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a trouvé là? C'est incroyable, ça semble être métallique également. Le groupe a revisité le site la nuit suivante dans l'intention d'obtenir une image plus claire. Mais quand ils sont revenus l'année suivante, Ils sont repassés par-dessus et dès qu'ils partaient leur sonore, Jason, l'année suivante, pour retrouver l'objet, il y avait des interférences électriques.
Oh, encore?
Oui.
Oh.
Donc, il était plus capable d'avoir d'image l'année suivante, en 2012. Alors, là, dès qu'ils reculaient, leur équipement marchait. Hey. Donc, leur équipement recommençait à fonctionner, mais dès qu'ils arrivaient dans le secteur, ils recommençaient à avancer pour retrouver là, exactement l'objet au même endroit qu'il était en 2011. Ben, les objets, là, ils ne marchaient plus.
On s'entend, là, 2010-2011, on a de l'équipement sur les bateaux, on peut retourner facilement au même point où on était l'année passée. Là. C'est facile. On est capable avec la navigation par GPS maintenant, avec les satellites, les cartes ultra précises, les navires qui sont de plus en plus intelligents aussi. On est capable de dire, OK, on revient dans un an à ce point-là. L'année d'après, il retourne exactement sur le même point. Là. C'est pas comme en 1600 où on avait de la misère à calculer là, la longitude, la latitude. Là. Avec les GPS, on est capable d'être ultra précis.
Ben oui, tout à fait. Et c'est une histoire qui est sensationnelle parce que là, Jason, avec l'image sonore, la première image du sonore, on l'identifie, on commence à la tracer, faire le contour, à trouver la forme là, qu'elle a. T'sais, on parlait d'une forme circulaire. Et là, plus on commence à analyser les détails de l'image sonore, Jason, plus on se rend compte que c'est ça à quoi ça ressemble? Au Faucon Millennium!
Ben voyons donc!
Oui! L'engin est semblable au Faucon Millennium et vraiment le Millennium Falcon. Alors, les fans de Star Wars là, capotent sur le globe terrestre en 2012. Tout le monde veut aller voir cet engin. Là, ça prend une ampleur phénoménale. Le Daily Mail, un journal britannique, crée justement plein d'illustrations fantaisistes. Et là, les médias s'en emparent. Et là, il y a plein de gros titres. Partout sur le globe, dans les journaux. On a trouvé le Faucon Millennium en mer Baltique, blablabla. Et écoute, là, il y a plein de il y a des millions d'articles. Et l'équipe de Oceanics dit, on a trouvé des échantillons. On a ramassé des échantillons de cet objet.
Oh!
Et lorsqu'on les identifie, ils disent que c'est métallique et que c'est pas du tableau périodique, ça vient d'un autre... ça vient pas de la Terre et c'est métallique. C'est donc une matière... qui est donc inconnu. Alors, de plus en plus, on pense à un vaisseau spatial qui est enfoui en mer Baltique. Et finalement, ben là, l'équipe d'Oceanics, eux autres, ils se préparent à monter une équipe là, avec un sous-marin pour faire visiter les touristes millionnaires pour aller inspecter le Faucon Millennium à 60 mètres sous l'eau pour aller voir et tout. Et finalement, ben, on se rend compte que quand les scientifiques... mettre la main à la pâte, comme on dit. Ben, les scientifiques ont analysé les vrais échantillons d'OCNX qu'ils avaient répertoriés. Puis finalement, ça reste. On a découvert que malheureusement, c'était de la roche.
Ah.
C'était de la roche. C'était des cailloux. N'empêche qu'on explique que ça a quand même une forme extrêmement bizarre en cercle. Donc, ça reste inexplicable. Ça reste un phénomène que quand tu passes au-dessus, et que tu as ton radar, tu prends une image sonore de cet objet-là, c'est vraiment énorme.
Écoute, j'ai l'image devant moi, puis ça ressemble vraiment au Faucon Millennium. Faucon Millennium, la caractéristique, la première affaire qu'on remarque sur le Faucon Millennium, le fameux vaisseau spatial à Han Solo là, dans Star Wars, c'est vraiment la cabine de pilotage, hein, qui est comme sur le côté plutôt qu'être au centre. C'est une espèce de verrière, dans le fond, qui est sur le côté du vaisseau. Et quand on regarde l'image dans la mer Baltique, ben, on a l'impression qu'on le voit là, à droite là, de l'image. Ben, en fait, dans le bas de l'image, qui serait la droite du vaisseau, on a l'impression que c'est là. On a l'impression d'avoir exactement la même cabine de pilotage.
Oui, absolument, absolument.
C'est fou.
Donc, c'est vraiment fou, mais là, c'est ça, les hypothèses, par exemple, il y a celui qui a étudié les fragments, là, c'est Volker Brutscher, un professeur agréé de géologie à l'Université de Stockholm, qui lui dit, regardez, j'ai analysé, c'est des granites, des gneiss et des grès. Et là, il y a plusieurs géologues qui disent que c'est par la formation, c'est un endroit où les aires glaciaires ont vraiment formé des objets de roche, des formes rocheuses de grès, puis de terre, puis de boîtes qui peuvent ressembler à des trucs vraiment loufoques. Là, si on commence à regarder dans le fond de l'océan, on pourrait trouver un peu comme dans les nuages. Quand tu vois des nuages, tu te dis, ah, regarde, ça ressemble à tel personnage dans tel film ou tel, ben, dans le fond de l'océan, il y a toutes sortes de formes et d'amas de poussière et de grès qui peuvent donner, par les courants, puis les tourbillons, puis les formes géologiques, des formes vraiment qu'on peut identifier à des choses qu'on connaît dans la pop culture aujourd'hui, dans les films ou quoi que ce soit. Donc là, ça, c'est une sculpture naturelle qui ressemble parfaitement au Faucon Millennium, formé de roches et de grès.
C'est vraiment, vraiment spécial. Écoute, il y a eu quelques scientifiques et chercheurs qui ont un peu tapé sur les doigts hein, de Ocean X. Je suis en train de regarder là, parce que ça m'intéresse là, vraiment là, de savoir là, qu'ils font. Et bon, cette fameuse découverte. Et il dit, quelques scientifiques ont dit, écoutez, ils ont peut-être été un petit peu vite dans leurs conclusions. Et ils ont été très, très rapides, surtout à vendre des visites avec des riches touristes. Ils se disent que quand quelqu'un dit qu'il a fait une découverte extraordinaire puis que deux semaines après, il commence à essayer de la monétiser, nous autres, les scientifiques, habituellement, on va aller vérifier encore plus dans ce temps-là parce qu'il y a un bénéfice financier très rapide qui est mis en place pour une découverte qui n'a même pas encore été confirmée. Fait qu'il amène un bémol là, assez important là, à la découverte de Ocean X. Il dit pas que ça a été malhonnête de leur part, mais c'est tout juste. Là. C'est, en gros, là, ils utilisent beaucoup de mots pour dire qu'ils n'ont pas été honnêtes.
Absolument. Puis ça, c'est un peu, malheureusement, on le sait, c'est exactement ça en 2012, en 2011. On le sait, hein, ce qui se passe avec Internet. Jason, la photo véritable, la première photo de l'image sonore, est floue, on ne voit pas grand-chose. Non. Par la suite, ben, les médias, les internautes ont créé des tonnes d'images du fameux Faucon Millennium. Ou tu sais, l'image que tu as vue, là, ça ressemble au Faucon Millennium,
ouais.
C'est une reconstitution, là, probablement.
Ouais, non, c'est ça. La photo originale n'est pas claire comme ça, parce que ceux qui ont déjà regardé l'écran d'un sonore, même un sonore de très bonne qualité, ça fait pas des images super clean. Là. C'est pas de la haute définition. Là. C'est même relativement flou. Il faut apprendre à lire un sonore, sinon on n'est pas capable d'identifier ce que sur les images.
Exactement. Donc, mais quand même, pendant 2 ans, là, cette histoire a fait le tour du monde et on y a cru pendant un certain moment jusqu'à ce que les scientifiques se penchent là-dessus. Puis, il y a plein de scientifiques, des géologues, des chimistes, des experts en volcans qui ont pu expliquer la formation rocheuse puis qui disent, écoutez, si vous saviez comment la nature peut créer des phénomènes encore plus bizarres et détaillé que cette roche-là, on peut penser à... Je sais pas si tu te souviens, tu sais, près du Japon, là, quand on a fait l'épisode de l'Atlantis.
Oui. Il y a des structures sous-marines qui ressemblent à des structures qui auraient pu être construites parce que des fois, la nature, le hasard fait que la nature fabrique des choses vraiment, 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 là, qu'on a de la difficulté à croire que c'est naturel.
Exactement. Donc, les géologues, tout le monde... Les scientifiques s'entendent pour dire c'est vrai que c'est un phénomène bizarre, c'est un phénomène, mais qui est naturel à 99,9% des chances, surtout qu'il est juste à 60 mètres. Donc, s'il y avait véritablement un vaisseau spatial là, dans la mer Baltique, on va se le dire, on l'aurait détecté là, facilement aujourd'hui, depuis 2012. On est en 2023, on serait retourné, on aurait eu des meilleures images, il y a eu des plongeurs qui sont... C'est sûr qu'il y a des plongeurs qui sont retournés, là, puis tout ça. On n'a pas d'autres images, là, donc c'est l'histoire. C'est quand même l'anomalie navale baltique, cet objet étrange, là, au fond de l'océan, au fond de la mer.
T'as parlé, ben, c'est toi qui avais présenté là, l'Atlantide, puis les fameux sites sous-marins où on pensait qu'il y avait peut-être des vestiges des installations de l'Atlantide. Il y a beaucoup de ces sites-là, Tristan, que les chercheurs, les scientifiques, les géologues, les archéologues ont dit, ben écoute, ce site-là, c'est un site naturel. Ça n'a pas l'air de ça. On dirait qu'il y a des routes, mais c'est un site naturel. Voici pourquoi. Ces sites-là, il y a encore des gens qui contestent, qui disent que ça se peut pas que ce soit une création naturelle. J'imagine qu'on a le même phénomène aussi dans la mer Baltique où des gens disent que la science essaie de cacher la vérité puis qu'en réalité, c'est pas vraiment une construction naturelle. Je suis certain qu'il y a encore des gens qui vont convaincus qu'ils vont trouver un vaisseau spatial.
Absolument. Et tout à fait. Puis tu vois, je terminerai avec un peu une passe un peu philosophique, loufoque. Amusons-nous, Jason, comme d'habitude, avec tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait plusieurs auteurs dans l'histoire des observations d'objets volants non identifiés qui proposent une théorie. Alors, Il y a même des livres complets là-dessus. Tu sais, on parle souvent de l'Atlantide, de cette cité perdue des humains depuis... c'est Platon, là, il me oui. semble qu'il en avait parlé la première fois. Alors, depuis des milliers d'années, les humains se partagent une idée qu'il y a peut-être eu une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre il y a des milliers, des centaines de milliers, voire peut-être des millions d'années sur la Terre. Et que cette civilisation serait sous-marine. Et on propose que toutes ces observations là, qu'on a parlé aujourd'hui d'objets sous-marins non identifiés, que ce soit les objets qui circulent à 280 km à l'heure sous l'eau, des lumières clignotantes rouges qui plongent dans le fleuve Saint-Laurent, ou des observations comme en Italie où les 500 rapports pendant une année, on a vu toutes sortes de trucs émerger de l'eau et plonger dans l'eau. Mais on dit qu'il y a peut-être une civilisation cachée qui existe et que toutes les observations d'objets volants non identifiés, toutes ces observations-là, ça serait sans exception toutes des observations d'objets qui proviennent de la mer, des océans, donc qui sortiraient de l'eau et qui se ramasseraient dans notre atmosphère, dans le ciel, dans l'orbite bas, tu sais, puis qu'on tous les ovnis, dans le fond, proviennent des océans et qui font des voyages, mais qui retournent toujours dans l'océan. Et qu'il y aurait des bases souterraines cachées. Et là, on dit que s'il y a des bases souterraines, ils disent que probablement que ça serait situé dans le cercle polaire, en Arctique ou en Antarctique. Justement parce que c'est là qu'on ne voit jamais, c'est là qu'on n'en voit pas de sous-marins, c'est là qu'on n'en voit pas de sonde, ni de sonore, il n'y a personne, c'est complètement mystérieux. Et tu sais, quand on dit qu'on explore le ciel alors qu'on ne connaît pas le fond des océans, ben imaginez le fond des océans près de l'Antarctique. C'est fou comment on ne connaît pas ça. Et il y a plein d'observations d'ovnis à la pointe sud de l'Argentine, Jason, où on parle justement là, d'observations d'objets sous-marins non identifiés dans le secteur de la pointe sud de l'Argentine, donc entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Il y a un secteur où il y a plein de témoignages de gens qui observent des objets volants plongés dans l'océan au loin vers l'Antarctique depuis des années. Un peu comme au Mexique, à ce qui paraît, c'est rendu banal à la pointe sud de l'Argentine. Les gens vont là avec des caméras, ils s'installent, puis ils se disent « Bon, qu'est-ce qu'on fait à soir? On va regarder les ovnis plonger dans l'océan! » C'est rendu banal à ce point-là. Et il y a même on dit que le deuxième poumon de la Terre s'est situé justement dans ce secteur-là parce qu'il y a une forêt d'algues incroyables sous l'eau entre l'Antarctique et la pointe sud de l'Argentine. Et parfois, on observe des quantités incroyables d'algues qui remontent à la surface comme si on était détachés, arrachés par quelque chose qui circule dans le fond de l'océan. Alors, il y a tout ça. C'est vraiment une grosse... Là, je lisais sur les forums et tout, ça allait loin, là. Mais on parle beaucoup, 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 pas nécessairement de l'Atlantide, mais que, en fait, la théorie, c'est ça, c'est qu'on parle que les visiteurs venus du ciel, comme on les appelle, les ovnis, les extraterrestres, ben, les gens s'amusent sur Internet, ils jasent et ils disent que ça viendrait peut-être, en fait, sans exception, toutes les observations viendraient des océans et que ça viendrait d'une civilisation plus avancée que la nôtre, qui vit en ce moment même dans les fonds de l'Antarctique et de l'Arctique et qu'ils ont des engins qui vont super vite sous l'eau. Bref, c'est vraiment fou, mais je m'amuse, on s'amuse. Hein. Moi, je reste toujours que je ne crois pas à ça, mais je lisais ça ce matin puis hier soir, puis j'étais comme « Ah, ben... » J'avais pas entendu parler de ça. Jamais.
Ben, c'est cool parce que, écoute, dans les théories qui circulent, il y en a tout le temps. Puis quand il y a une contre-théorie qui vient défaire une théorie, ben, il y en a une nouvelle qui vient au monde pour venir patcher puis venir réussir à répondre aux questions de pourquoi l'autre théorie était pas bonne. Et tu parlais que les ovnis viendraient du fond marin ou qu'on en verrait beaucoup sortir de l'eau puis que la majorité serait... proviendrait des mers plutôt que venir de l'espace ou du ciel. Écoute, j'en ai vu des théories aussi, moi, avec ça. On parlait du triangle des Bermudes tout à l'heure. Ben, le triangle des Bermudes aurait un peu comme... voyons, depuis tantôt, là, je bégaye parce que je cherche le nom de l'émission. Stargate, voilà! Il y aurait une espèce de grande passerelle dans le triangle des Bermudes, suffisamment grand pour laisser passer des ovnis, laisser passer des vaisseaux spatiaux. Et... c'est par là qu'ils arriveraient et qu'ils retourneraient. Fait que les ovnis rentreraient dans l'eau, dans le secteur du triangle des Bermudes, pour aller prendre leur espèce de passerelle qui les ramène dans leur monde ou sur leur planète. Et c'est une espèce de raccourci. C'est un peu comme un portail de téléportation entre la Terre et une autre planète ou un autre monde, une autre dimension, peu importe là, les théories, ils varient. Mais on parle souvent de ça. Et que ces installations-là, dans le fond marin près du Triangle des Bermudes, fait en sorte que le Triangle des Bermudes, ben, on a plein d'histoires là, d'avions, de bateaux disparus, d'équipements qui se dérèglent, qui virent fous, d'interférences. T'en as parlé beaucoup d'interférences aussi là, quand les gens font des observations. Souvent, il y a de l'interférence qui vient avec. Dans le Triangle des Bermudes, on en parle aussi. Et on dit même que le Triangle des Bermudes, dans d'autres théories, aurait une espèce de tunnel qui permettrait d'aller de l'autre côté de la Terre super rapidement. Fait que l'océan, dans le fond... Atlantique puis Pacifique aurait un tunnel entre les deux de chaque bord de la Terre, puis les océans seraient dans le tunnel. Fait que là, quand ils rentrent dans l'eau, ben, roup, là, ils s'en vont dans le tunnel, puis là, ils ressortent au bord de la Terre, puis ils ont comme sauvé 20 minutes. Je sais pas combien de temps ils sauvent en faisant ça, mais ils sauvent quelques minutes, c'est un raccourci, et ça serait la raison pour laquelle on voit les ovnis entrer et sortir de la mer. C'est que il y a des installations qui sont là pour leur permettre de voyager rapidement sur la Terre ou dans leur propre monde, et que c'est une des raisons pour laquelle il y a des zones sur la Terre aussi où les appareils des avions, des bateaux se dérèglent facilement.
Oui, c'est ça, exact. Dans la théorie de la civilisation sous-marine, il en avait parlé du Triangle des Bermudes, justement. Il disait que c'était probablement un port sous-marin. Tu sais,
oui, c'est ça.
Justement, une sorte d'endroit où les vaisseaux se rendent pour passer d'un point A au point B. Il en avait parlé, mais... Il parlait beaucoup aussi là, vraiment de la mer. C'est drôle, ça, je ne l'avais jamais entendu parler, mais l'endroit géographique sur Terre le plus probable, selon eux, où il y a une base sous-marine, ça serait entre l'Antarctique et la pointe sud de l'Argentine. Ça a de l'air. Ben, là, ça s'est revenu souvent en cherchant sur le web, les observations, les algues qui refont la surface.
Ils vont, ils vont dire que c'est à des endroits où on n'explore pas beaucoup. Hein. On parle de l'Antarctique. Il n'y a pas grand monde qui va faire de la plongée dans les profondeurs très profondes de l'eau dans ce coin-là. Fait que c'est un bon spot pour se cacher.
Absolument, absolument. Et moi, je faisais quand même... On s'amuse, mais après avoir fait tous ces épisodes, je faisais des liens. La vague d'OVNI au Mexique, la vague d'OVNI en Belgique, les hommes grenouilles, les objets clignotants avec des clignotants rouges. J'étais comme, voilà, on a trouvé cette civilisation, c'est les hommes grenouilles, Jason.
Et voilà, on a fait un lien entre plein de sujets, puis on a la réponse.
Absolument, non, mais j'ai eu du fun, pour vrai, mais je m'attendais à, on aurait pu, je vais peut-être faire un épisode 2 à un moment donné, parce qu'il y avait d'autres choses, j'ai trouvé plein d'autres petites observations, il y en avait des tonnes, mais là, je me suis dit, j'en ferai pas 40, là, des observations. À un moment donné, je me suis dit, je vais prendre les plus populaires, mais malgré tout, j'ai eu quand même beaucoup de plaisir à faire mes recherches. Je n'avais jamais entendu parler de toutes ces observations d'objets sous-marins non identifiés. Alors, je voulais vous partager là, ces petites observations, ce petit partage.
Tu as parlé de quelque chose tantôt qui est quand même important. Tu as parlé de... on explore le ciel, on explore l'espace, on va aller sur Mars... on veut aller sur d'autres planètes, on aimerait sortir de notre système solaire, aller explorer plus loin, alors qu'il y a des fonds marins qu'on n'a jamais vus encore, là, comme espèce, là, l'humain, il y a des fonds marins qu'on n'a jamais explorés, qu'on n'a jamais vus, qu'on ne sait pas ce qui s'y trouve. On dit qu'il y a encore une quantité assez importante d'êtres vivants, de créatures qui vivent dans les mers qu'on ne connaît pas, parce qu'ils vivent dans des profondeurs, ils vivent dans les noirceurs absolues. Fait qu'il y a encore d'observations à faire dans la mer, et ça reste mystérieux. Et ce qui est mystérieux, ben, c'est propice à stimuler notre imagination, à nous donner des idées. T'sais, moi, j'habite sur le bord de la mer. T'as habité ici, il y a la mer, c'est un étendue gigantesque, là, c'est incroyable. Là, autour d'ici, là, on est comme une petite pointe qui est dans l'embouchure du Saint-Laurent. L'eau est salée ici, c'est la mer. Et puis on est pratiquement là, dans l'océan. Et c'est gigantesque. Et pour avoir été... Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime l'eau. Vraiment, là, les gens me disent, pourquoi tu es allé t'installer là? Tu es à côté de la mer. C'est une belle place, mais j'aime pas, j'apprécie pas l'eau. Je ne suis pas une personne qui va aller en bateau à toutes les fins de semaine. J'irai pas faire du ski nautique, de la planche. J'aime pas l'eau. Je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise sur l'eau. Fait que quand je prends le bateau, puis qu'on va sur les îles, parce qu'il y a un archipel ici avec des îles magnifiques, eh bien, quand je regarde dans l'eau, on dirait que mon cerveau, il a tendance à faire comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Oh, hey, attends un peu, y a-tu une bébite? Oh, hey! Parce que j'aime pas ça. Fait que mon cerveau me raconte des peurs. Fait que oui. Si on est rendu quand même assez loin, on est au large, on a dépassé les îles, et que là, je vois un ombre noir dans l'eau, et mon cerveau, là, il va faire « Wouhou! Oui. » Il y a une bébite, là. Hey, ben, capitaine, il y a une bébite! Je vais capoter, alors que c'est peut-être juste un jeu de lumière, parce que bon, on le sait, l'eau salée, l'eau pas salée, la lumière se reflète pas de la même manière. Des fois, il y a des algues, des fois, l'eau est claire, des fois... Fait que ça donne des effets d'optique, des fois, qui sont quand même assez intéressants. Et si on est un peu craintif ou on connaît pas vraiment la mer, ben un peu comme moi, vous allez faire comme « Hey, je pense qu'il y a quelque chose, là. » Puis finalement, on pense « Hey, il y a peut-être une baleine là-bas, puis c'était juste une vague, puis on a de l'air d'un caf parce que tout le monde rit de nous autres. » mais c'est arrivé. Je dis « Ben, je pense qu'il y a une baleine là-bas. » Puis là, finalement, tu dis « Ah non, c'est de la vague. » Là, t'as de l'air cave. Mais c'est parce que mon cerveau, il fait comme « OK, c'est plein d'éléments que je connais pas, parce que je ne vais pas souvent sur l'eau. Je suis pas un tripeux de marin. Je suis pas un marin. » Fait que quand je suis dans un environnement que je connais moins, mon cerveau travaille fort là, pour essayer d'identifier ce qu'il voit. Puis des fois, il n'identifie pas la bonne affaire. Puis des fois, il identifie des affaires juste parce qu'il n'y a pas d'autre manière de l'identifier. Mais pendant ce temps-là, j'ai comme « Hey, qu'est-ce qu'on a vu? C'était quoi ça? » Et ça peut arriver, mais 4-5 personnes de même sur un bateau avec juste une personne qui mettons, qui navigue, mais les 4-5 autres, c'est des personnes qui n'ont absolument aucune expérience d'aller sur l'eau.
Oui.
Puis que là, les 4-5 voient quelque chose en même temps, et ça va sortir des belles histoires, alors que c'était peut-être juste un nombre. Eux autres vont arriver avec des histoires absolument incroyables. Là. Hey, tu sais pas ce qu'on a vu. On a vu quelque chose dans l'eau. Écoute, je suis certain que c'était une baleine géante. Mais dans le fond, c'était juste de l'ombre. Mais
ben
ça,
oui.
c'est, on a tendance, on aime ça se raconter des histoires. On aime ça se faire peur un peu. Fait que quand on voit quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on n'est pas capable d'identifier, c'est bien rare qu'on va dire « Ah, oh, ça doit être juste une ombre. » Ben non, notre cerveau va dire « Waouh, c'est le Faucon Millennium! » On part tout de suite dans les extrêmes parce que...
Vois, au début, j'ai fait comme toi quand j'ai vu l'histoire de l'anomalie de la mer Baltique. Je me suis fait avoir là, la première heure, là, j'étais sur le dossier, je fouillais. J'étais comme hey, « Mais c'est pareil! C'est le vaisseau, il est pareil! » Plus je fouille, plus je me rends compte, dans le fond, qu'il y a une image véritable.
Ouais.
Puis qu'elle a été refaite par des gens sur Internet. Mais j'étais comme « Ah, ben là, c'est pas la vraie image. » Mais tu sais, je me suis vraiment fait avoir. Puis si tu y vas 2 minutes, tu vas te faire pincer sur Internet. C'est parce que articles, c'est... On a trouvé, ils vont dire, Oceanix a trouvé un objet semblable au faucon. Puis ils vont mettre l'autre image, ils vont pas mettre l'image véritable du sonore, ils vont mettre l'image qui a été refaite.
Puis malheureusement, ces articles-là restent sur Internet, même quand l'histoire a été, été explorés, ils ont démenti. Les vieux articles, malheureusement, sont pas toujours corrigés, puis ils vont rester là. Fait que si je fais une recherche avec Faucon Millennium, mer Baltique, je suis certain que je vais trouver des articles qui vont dire « On a trouvé quelque chose, ça ressemble à ça », sans donner les détails ou sans dire « Ben là, après étude, on s'est rendu compte que c'était de la roche puis ça n'a rien à voir ». Ils vont juste donner le premier feeling de l'article, puis ils ne recorrigeront jamais. Fait que là, l'article date de 2011, on tombe dessus, mais on n'a pas le réflexe d'aller voir la date, aller voir s'il y a d'autres articles après. Ben, on va penser que ça vient d'arriver puis qu'ils ont vraiment trouvé un vaisseau spatial dans la mer Baltique.
Ben oui, ben c'est pour ça que j'ai commencé à le raconter de la première manière, parce que tu vois, avec les articles et les vidéos sur YouTube, les premières choses que j'ai trouvées, c'était justement, avec l'explication, que c'était un métal non identifié qui provenait d'un autre monde. Là, j'étais comme « Oh my God! » En plus, ils ont eu une preuve matérielle que c'était du métal. Là, je vois les vidéos sur YouTube, il y a plein de monde qui raconte ça, des Français de la France, qui font des YouTubeurs qui disent... Ah oui, alors c'était du métal. Puis là, après ça, c'est vraiment après une deuxième recherche que je suis tombé sur les scientifiques qui avaient vraiment identifié le matériel, puis c'était en fait du grès puis toutes sortes de roches. Là, j'étais comme un peu déçu, mais...
mais malheureusement, Internet, c'est une source incroyable d'informations, mais c'est malheureusement aussi, sans le vouloir, là, il y en a que c'est volontaire, mais sans le vouloir, c'est une source de désinformation aussi.
Ouais.
Parce qu'il y a plein de vieilles informations qui traînent, qui seront jamais enlevées, qui seront jamais corrigées, puis qui vont rester là. Fait que des fois, tu jases avec quelqu'un sur les médias sociaux, la personne te parle de quelque chose que tu connais, mais tu sais que la personne, elle te parle comme si ça venait d'arriver, mais qu'en réalité, elle te parle de quelque chose qui est arrivé en 2010, puis que depuis 2010, ben là, il y a eu plein d'autres développements, puis on a toute l'information. Mais la personne qui est tombée sur un article de 2010, puis qui n'a pas vérifié la date, va en parler comme si ça vient d'arriver. Et ça arrive fréquemment, ça, qu'on croise des gens sur les médias sociaux qui disent « Hey, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé, toi? Hey, il y a quelque chose qui s'est écrasé à Roswell, au Nouveau-Mexique, là. Ils pensent que c'est une soucoupe volante. » Puis là, la personne est tombée sur un article de 1957, je sais plus trop l'année. Mais la personne exact. Va penser que c'est arrivé aujourd'hui, alors que l'histoire est très vieille. Et malheureusement, Internet a tendance à nous amener dans ces vieux articles-là. C'est la raison pour laquelle c'est d'autant plus important d'aller vérifier les sources. Là, ça donne une idée. Quand on prépare dossier bizarre, on ne va pas à une seule place parce que sinon, on risque d'arriver avec une information complètement erronée et faire un épisode complet sur une information erronée.
Ben oui.
On en regarde des sources là, avant d'arriver et de dire « OK, cette information-là est bonne, je la mets dans l'épisode. Cette information-là n'est pas confirmée. Je vais la mettre, mais il faut que je le dise. Cette information-là est fausse, je ne la mets pas. » C'est pas évident, là, parce qu'il faut éplucher plusieurs articles. Il faut aller voir des documents scientifiques, des fois des vidéos, des fois c'est des documentaires. Puis on essaye d'être le plus factuel possible. Puis malgré ça, l'épisode va sortir. Il y a peut-être quelqu'un qui va donner un commentaire pour dire que dans la mer Baltique, finalement, ils ont découvert une nouvelle affaire cette année, puis on n'en a pas parlé parce qu'on ne l'a juste pas vu passer. Ça peut arriver aussi, là.
Ben oui, tout à fait. Tu sais, faut dire que j'en ai laissé tomber une bonne dizaine des histoires qui étaient juste too much. Là, demander si c'était des navires qui se faisaient foncer dedans par un objet. Là, le navire qui était coupé en deux. Là, ils disaient « Ah, c'était une créature ou un ovni qui nous a dit. » J'étais comme « Là, demander, j'en prends et j'en laisse. Il faut que j'en choisisse. »
On aurait entendu parler ailleurs, mettons, si c'était arrivé comme ça.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, je trouvais aussi que quand même, tu sais, par rapport à l'observation, là, mettons qu'un avion passe dans le ciel, il va avoir une vision large de ce qu'il y a au sol. Tu sais, il va voir tout ce qu'il y a. C'est même quand on regarde dans le ciel, les avions, ils voient très loin devant eux. Mais dans le fond de l'océan, j'étais comme ça, c'est fou parce que ça prend un radar qui va capter, par exemple, 5 mètres de large devant lui. Fait que là, il va avancer puis ça va faire une ligne. Mais t'imagines-tu comment? T'sais, on ne connaît pas les
Écoute, si on voulait cartographier tous les fonds marins là, à la perfection, là, ça serait une job incroyable parce que c'est pas évident. Il y a des distances, il y a des profondeurs aussi qui sont trop pour l'équipement qu'on a actuellement. C'est quelque chose, c'est extrêmement vaste, là, les océans. Là, c'est gigantesque au point où on a... On dirait que la Terre est rendue petite, hein, dans le sens qu'avec Internet, avec la mondialisation, il n'y a comme plus de frontières. On dirait que la Terre a rapetissé dans les dernières années parce que je peux facilement, en un clic, parler à quelqu'un qui est en Chine, puis avec un autre clic, parler à quelqu'un qui est en Afrique, puis après ça, ajouter quelqu'un qui est en Argentine. Puis c'est comme si le monde était collé un sur l'autre. Là. On est comme près de tout le monde. Puis on dirait que ça nous fait perdre un peu cette vision-là que la Terre, c'est vaste et les océans, c'est encore plus vaste que la Terre qu'il y a, que l'espace habitable qu'on a sur notre planète et qu'on en a juste observé un petit pourcentage jusqu'à maintenant. On va en avoir des découvertes. Puis à un moment donné, on va peut-être faire un méchant saut quand on va découvrir de quoi dans la mer. On va dire, ben voyons donc, ça a été là tout ce temps-là puis on ne l'avait jamais trouvé. Parce que, tu le dis, prends quelque chose qui fait, mettons, 10 mètres par 10 mètres puis mets-le dans l'océan sans dire à personne où tu l'as mis. Puis après ça, tu dis, bon, ben OK, il faut que vous le trouviez. Ça va prendre du temps, là. 10 mètres par 10 mètres dans ma maison, c'est immense, c'est gros. Mais dans l'océan, c'est un grain de sable.
Là. Oui, vraiment, vraiment.
Non, c'est un petit grain de sable.
Exact. Je vais être honnête, c'est un sujet que j'ai... je vois que je me développe plus le temps passe, une sorte de passion, une fascination pour tout ce qu'on trouve dans les océans. De plus en plus, je m'abonne à des trucs de documentaires de National Geographic où il y a des équipes, surtout en France. Je te dirais, la France, là, je salue nos amis français, qui ont une expertise dans le domaine de l'archéologie sous-marine. De plus en plus, là, ils ont des équipes, des sous-marins, des drones sous-marins vraiment technologiques et impressionnants. Et on va essayer de trouver des civilisations qu'on sait qui étaient là, mais que l'eau a monté. Fait que là, on ne peut plus, faut y aller avec des équipements sous-marins, mais des vieilles civilisations là, qui ont vraiment existé, mais qui sont rendues sous-marines parce que le niveau de l'eau a monté ou que l'île à cause des volcans a baissé. Fait que ça, c'est vraiment fou. Puis des naufrages, des navires. Bref, c'est un monde fascinant.
Absolument.
Mais j'ignorais totalement, là, quand même. J'avais jamais entendu parler. J'en avais entendu parler, mais je n'avais pas creusé sur les OSNI. Et c'est tout un monde. On a fait que survoler là, rapidement aujourd'hui. C'était quoi un peu? Mais si vous avez des témoignages, vous avez observé un objet sous-marin non identifié, écrivez-nous votre histoire en commentaire sur le post. puis on va vous lire attentivement, soit en privé ou en public, là, dépendamment de ce que vous voulez, mais écrivez-nous de vos histoires, parce que moi, je serais très curieux de vous lire. Là. Ça serait super.
Excellent. Hey, un gros merci, Tristan. C'était différent comme sujet. Je ne m'attendais pas à ça, ouais. mais je trouve ça cool parce qu'on reste dans le thème des extraterrestres, mais là, on les met dans l'eau plutôt que dans le ciel.
Ben oui, exact. On est allé faire un petit tour sous l'eau aujourd'hui. C'était le fun. Ben oui, j'ai
très intéressant.
Mon premier petit sujet agréable, là, la saison 6 est là. On a plein de suggestions. On est en feu. On est reparti.
Ah, écoute, on doit avoir eu 50 suggestions depuis une semaine. plein de gens que dès qu'on lance la saison, ben, les gens nous proposent des sujets. Continuez de le faire. Ça se peut qu'on le fasse jamais, votre sujet. On ne garantit pas qu'on va les faire, mais on fait une liste, puis on explore les sujets. Des fois, on arrive sur un sujet, c'est super intéressant. Mais il y a tellement pas d'informations qu'on ne peut pas faire plus qu'un 15-20 minutes avec. On va le mettre de côté. Mais quand un sujet permet de faire un épisode complet, c'est sûr et certain qu'on apprécie les suggestions.
Absolument. Puis pour terminer sur le podcast d'aujourd'hui, mon coup de cœur, c'est vraiment les 12 hommes grenouilles qui sortent du bord de vaisseau. Hey, salut, c'est nous. Puis c'est encore une fois, je ne sais pas si tu te rappelles l'épisode des hommes grenouilles. Il était quand même sympathique. Il était gentil.
Yeah, oui, il était... Il était pas dangereux. Il était comme. Il voulait pas trop se mêler avec les humains, mais il était pas agressif. Là.
Quand j'ai vu Homme Grenouille, c'était la deuxième fois de ma vie que je voyais Homme Grenouille apparaître dans une histoire.
On sait maintenant que l'Homme Grenouille de Loveland vient probablement d'un OSNI. Ils sont tombés en panne dans ce coin-là. Puis on dit ben, écoute, on vit ici maintenant.
Exact.
Hey, ben, un gros merci, Tristan. Très intéressant comme sujet. On va remercier nos fidèles d'Aubizariennes, d'Aubizariens. On remercie les gens sur le Patreon également. Vous êtes restés fidèles cet été malgré qu'il n'y avait pas grand mouvement. Un énorme merci. Et on va continuer comme ça. Et on va essayer là, durant tout le long de la saison de donner l'épisode une semaine à l'avance sur le Patreon. Mais là, étant donné que le roulement est commencé, ben, ça paraîtra pas pour personne parce que les épisodes grand public sortent une semaine plus tard. C'est toujours le premier épisode là, qui a un peu d'attente, puis que là, mais un coup que c'est commencé, cet épisode-là va aller sur le Patreon, puis dans une semaine, il va être grand public, puis même chose avec l'autre épisode, puis l'autre épisode. Donc, vous allez avoir des épisodes à chaque semaine.
Absolument! C'est super le fun. Content de vous avoir retrouvé aussi, chers Dobizariennes, Dobizariennes. Suivez-nous sur Instagram aussi, en passant, on a une page.
Absolument! Hey, on se laisse là-dessus, Tristan. Un merci énorme pour un sujet que je ne connaissais presque pas.
Ah ben ça fait plaisir!
Bye bye tout le monde!
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
C'est maintenant l'heure de l'émission éducative par excellence pour les tout-petits, Lily et Riri. Ce matin, Lily et Riri découvrent la couleur verte.
Regarde ce que j'ai trouvé, Lily!
Mais qu'est-ce que t'as trouvé, Riri?
J'ai trouvé la couleur verte!
Oh, la couleur verte!
Oui, la couleur verte!
Veux-tu bien dire qu'est-ce qui se passe?
La couleur verte!
Oui!
Ils ont pas l'air affilés, là!
La couleur verte.
Ah. La couleur verte. La couleur verte.
Continue, bien sûr.
Lily, la couleur verte.
La couleur verte. Mais qu'est-ce qui est vert?
Qu'est-ce qui est vert? La laitue.
Oh. Je pense que c'est fini.
Lily et Riri vous a été présenté par le ministère de l'Éducation du Québec.